à tous et merci d'être à l'écoute pour ce 9e numéro d'Entreprendre Autrement, l'émission sur l'économie sociale et solidaire dans les Hautes-Alpes. Une émission originale aujourd'hui car je reçois deux invités pour deux axes thématiques très chers à l'ESS. Tout d'abord, Monsieur Laurent Guette, directeur de la société Coviva.
Bonjour.
Bonjour Laurent. Implantée depuis mars 2010, votre entreprise est spécialisée dans le maintien à domicile et les prestations de confort, notamment à destination des personnes âgées. Laurent, votre venue est d'autant plus importante pour nous que votre entreprise a obtenu récemment l'agrément Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale. Nous reviendrons avec vous sur votre volonté d'obtenir cet agrément et ce que ça représente pour vous ainsi que pour l'ESS qui ouvre son périmètre à un type d'entreprise commerciale jusqu'à présent tenue en dehors du champ. Ensuite, Benjamin Lecomte de la SIC Énergie Renouvelable du Gapençais.
Bonjour.
Son objectif, développer les productions d'énergie renouvelable sur le territoire du Gapençais, sur des projets solaires, photovoltaïques, en premier lieu installés sur des toitures de particuliers, de collectivités, d'entreprises et d'exploitations agricoles. L'occasion d'aborder la thématique de l'énergie et des projets citoyens que notre UDES aborde depuis plusieurs années. Mais tout d'abord, quelques actualités pour commencer cette émission. Et pour commencer, bien sûr, je vais vous parler du 11e forum de l'ESS qui aura lieu vendredi prochain 4 novembre. Messieurs, la date est prise à Chorges, dans la salle des fêtes. Cette année, le forum s'intitule Transition et il aborde la manière dont les acteurs et les entreprises de l'ESS s'engagent en matière de transition écologique, économique, politique. L'invité de cette année est Hervé de Falvar, économiste qui a remporté le prix du livre sur l'ESS 2016 pour son ouvrage La révolution de l'économie en 10 leçons. Tout un programme. Le forum est ouvert à tous et son entrée est gratuite. Au programme des conférences, des ateliers participatifs et bien sûr de l'interconnaissance. Si vous voulez rencontrer le réseau de l'économie sociale et solidaire des Hautes-Alpes, c'est le lieu. Cette année, nous aurons également 5 initiatives locales venues témoigner, dont la Biocop de Gap, la SIC Énergie Collective située dans l'Embrunet, l'association GSA à Gap, le groupe Monnaie Locale 05 et enfin l'association Écoloc qui est située à Barret-sur-Méouge. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur le site de l'UDES 05. Plus largement, je vous rappelle qu'en novembre, c'est le mois de l'économie sociale et solidaire, une manifestation nationale. Dans le 05, j'attire votre attention sur deux événements. Tout d'abord, le forum Bien vieillir et préparer ma retraite, dont le but est d'apporter des éléments d'information nécessaires sur les structures et dispositifs existants pour favoriser le bien vieillir à domicile des seniors fragiles. Ce forum aura lieu le 3 novembre au théâtre du Briançonnais et ça commence à 9h30. Toujours dans le mois de l'ESS, je vous propose également une sensibilisation au développement durable pour le secteur de la petite enfance par la structure Écolocrèche, une organisation qui vise à favoriser le changement de pratique afin d'améliorer la qualité de vie des enfants et du personnel, tout en réduisant l'impact environnemental des établissements. Ça se passe le 18 novembre, de 10h à midi, et c'est à l'hôtel du département, à Gap. Une information qui n'est pas inintéressante, les salariés d'entreprises de moins de 11 salariés et d'employés à domicile sont appelés à voter pour désigner leurs représentants syndicaux du 28 novembre au 12 décembre. Ces élections sont essentielles, elles permettent de désigner les organisations qui négocieront pour nos conditions de travail au niveau de nos conventions collectives. Pour rappel, un site a été mis en place afin de s'informer et même de voter en ligne, elections-tpe.travail.gouv.fr. Plus local, dans le cadre des Journées des Familles, le REAP propose une journée départementale pour réfléchir sur la parentalité le lundi 14 novembre au CMCL de Gap sur le thème « Porter un nouveau regard sur les parents ». Le sociologue Gérard Nérand interviendra en matinée, des tables rondes sur 4 sujets différents se tiendront l'après-midi. Vous pouvez avoir plus d'informations sur le site de l'UDAF 05 ou auprès de l'adresse rbertrand@udaf05.unaf.fr. Enfin, dernière actualité, organisée chaque année du 15 octobre au 30 novembre, le Festival de films alimentaires est un événement international qui amène les citoyens à comprendre les causes de la faim et à se mobiliser pour le droit à l'alimentation. Dans les Hautes-Alpes, nous rappelons que c'est l'association Échangeons le Monde qui coordonne ce festival. Les prochaines séances à ne pas rater, eh bien, par exemple, nous avons le samedi 29 octobre avec une projection dans le cadre de la journée Pressoir mobile à Saint-Léger-les-Mélèzes, le 5 novembre à Briançon avec la Biocop L'épine Vinette, ou encore le 7 novembre avec le film La guerre des graines. Et encore bien d'autres dates que nous vous proposons de retrouver sur le site de l'UDES www.udes05.org. Et tout de suite, une petite interlude musicale avec le groupe Vodou Game qui nous interprète le titre « La vie, c'est bon ».
La vie, c'est bon, 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 mais pas trop quand même.
Et voilà, vous êtes bien sur l'émission Entreprendre Autrement, avec le titre La vie c'est bon. Ça fait du bien un peu des chansons qui rappellent que la vie c'est bien aussi, et la vie c'est bon. On commence tout de suite donc avec nos deux invités. Donc je rappelle qu'on est avec Benjamin Lecomte de ERDG et puis Laurent Guette pour Coviva. Alors Laurent, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de Coviva? Qu'est-ce que c'est que cette structure? Qu'est-ce que vous faites?
Alors, Coviva, Alpage Autonomie, le nom de la société est Alpage Autonomie et on appartient au réseau Coviva, qui est un réseau national. Donc, on fait de l'aide à domicile. Du service à la personne au sens large, avec deux types de prestations, des prestations de confort, je dirais, pour tout un chacun. Et principalement, ce qui est notre savoir-faire, je dirais, depuis toujours, du maintien à domicile auprès de publics fragilisés. Que ce soit des personnes âgées en perte d'autonomie ou des personnes handicapées. Donc on va les accompagner dans tous les actes de la vie quotidienne, simplement. Je dirais du lever au coucher, mais on intervient, je dirais, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 si besoin. Donc notamment pour de la garde de nuit, pour les personnes âgées vraiment en fin de vie, et également toutes les prestations et tous les actes de la vie quotidienne, que ce soit de l'aide au lever, de l'aide à la toilette, des prestations de confort, d'entretien du logement, de l'accompagnement à l'extérieur pour des rendez-vous médicaux ou tout simplement pour aller faire ses courses au marché ou dans les petits commerces. Donc vraiment toutes les prestations, tous les actes de la vie quotidienne qu'on peut faire au quotidien.
C'est une grande entreprise. Vous êtes combien aujourd'hui en nombre de salariés ETP?
Alors actuellement, on est 52 salariés. Ça représente un petit peu plus de 36 ETP à l'instant T. Sachant que tout le monde, on a une volonté de proposer uniquement des CDI à nos salariés. Parce qu'on a eu la chance de se développer assez rapidement. Et ce qui fait que ça permet de fidéliser nos salariés. Sur le long terme, ils se sentent plutôt bien chez nous, vu qu'on a moins de turnover, je dirais, que ce qui peut arriver sur le secteur. Ce qui permet de vraiment à nos bénéficiaires de retrouver tout le temps le même intervenant. Ils ont leur repère, ils ne sont pas perturbés parce que, de par notre activité, on rentre quand même dans l'intimité des gens. Du coup, ça permet aux gens de développer des affinités, de travailler vraiment durablement et sur le long terme. Nous, on part du principe que c'est le développement humain qui fera le développement de notre entreprise. C'est pour ça qu'on attache une grande importance, je dirais, à la formation et au recrutement. Le recrutement, on essaye de recruter prioritairement des gens qui sont restés éloignés de l'emploi pour diverses raisons. On est une des seules entreprises de services à la personne à recruter des gens qui n'ont pas le permis. Mais tout simplement, on se rend compte que sur Gap, par exemple, ça sert à rien. Les gens se déplacent en vélo, à pied ou en transport en commun, ce qui crée du lien social et ce qui permet d'offrir un travail à des gens qui n'auraient pas pu exercer dans ce secteur. Sans cela, on essaye de travailler avec des personnes handicapées. On a 12% de travailleurs handicapés, ce qui est deux fois la norme, je dirais, à l'heure actuelle, au sein de l'entreprise. C'est des personnes qui sont déjà sensibilisées aux problématiques de nos bénéficiaires. Et donc, le contact est d'autant meilleur. Et donc, ça, c'est le premier axe, sur le travail du recrutement. Et le deuxième axe, c'est vraiment le développement des compétences de nos salariés. Avec 15% de formation continue en permanence pour permettre à des gens qui sont rentrés sans diplôme, je dirais, dans la société, de se former et d'acquérir un diplôme qui leur servira toute leur vie ensuite dans le secteur. Donc on attache une vraie importance à ça. Des gens qui sont rentrés en tant qu'aide ménager, qui vont pouvoir évoluer en tant qu'auxiliaire de vie et pourquoi pas derrière sur des postes au bureau, ce qui est le cas assez régulièrement. Donc des vraies possibilités d'évolution, ce qui fait que nos salariés se sentent plutôt bien et ce qui se ressent sur la qualité de nos prestations.
Une démarche employeur intéressante donc. Et votre territoire d'action, d'activité, c'est quelle partie dans le département, ça se situe où à peu près?
Alors on travaille principalement sur Gap, parce que historiquement on est implanté sur Gap, donc on s'est développé à partir de Gap. On travaille sur toute la vallée du Buëch, donc toutes les communes de La Roche des Arnauds, Vennes, Serres. On est en train de se développer petit à petit sur le Laragnier et tout ce qui est à l'est de Gap. À l'heure actuelle, on travaille jusqu'à Chorges, Prunières. On est en train de voir pour se développer sur l'Embrunet notamment, sur la commune de... pour faire le lien entre... On s'arrête grosso modo au pont de Savine. Donc on aimerait bien aller un petit peu plus loin.
Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui vous êtes en plein à Embrun. Donc là,
on est en plein territoire Embrunet, tout à fait. Ouais.
Alors, on vous accueille aujourd'hui aussi avec plaisir pour une autre raison, votre activité, effectivement, nous sommes très intéressantes, mais je rappelle que depuis la loi sur l'économie sociale et solidaire de juillet 2014, il y a la mise en place d'un agrément entreprise solidaire d'utilité sociale, qui est un peu la transformation d'un agrément précédent, mais qui permet à des structures comme la vôtre, qui ont des statuts de société commerciale, on va dire, plus classiques, et je mets les guillemets, de faire partie de la grande famille de l'économie sociale et solidaire. Je rappellerai d'ailleurs que le 20 septembre 2016, le ministère de l'économie et des finances, ainsi que celui du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ont publié une instruction en vue de la mise en œuvre de l'agrément ESUS à destination des services instructeurs et en vue de la mise en œuvre du dispositif de l'agrément ESUS. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, ça bouge sur ce côté-là. Pour aujourd'hui faire partie de l'ESS et obtenir cet agrément, c'est plus facile et en tout cas plus ouvert pour des sociétés comme la vôtre. Du coup, la question qu'on a envie de vous poser, c'est finalement, pourquoi chercher aujourd'hui à faire partie de l'économie sociale et solidaire ?
Je dirais que c'était avant tout pour nous, là, on a entrepris cette démarche pour avoir, je dirais, une reconnaissance. Parce que sur notre secteur d'activité, donc il y a deux types de prestataires, soit des associations, je dirais, classiques, implantées historiquement, soit des prestataires privés comme nous. Le but, c'était simplement de valoriser la démarche, je dirais, de développement à long terme et responsable qu'on a pu mettre en place pour le développement de la société. Donc, c'est, je dirais, vraiment logiquement qu'on s'inscrivait dans, je dirais plus ou moins sans le savoir, hein, dans cette démarche d'économie sociale et solidaire. Pour nous, c'était simplement du bon sens de mettre l'humain au centre de tout, parce que c'est ce qui fait la qualité de notre service, c'est ce qui fera la qualité de notre service surtout demain. Voilà, on travaille vraiment sur du long terme. Donc, pour nous, cette démarche, je dirais, responsable était vraiment logique. C'est pour ça qu'on a demandé cet agrément. Ça a été une vraie reconnaissance pour nous de l'obtenir. C'est, je dirais, les critères, une fois qu'on atteint les critères pour être éligible à l'économie sociale et solidaire.
Justement, sur ces critères, est-ce que c'est, question bête, est-ce que c'est dur à obtenir ? Ces critères, c'est quoi en gros ?
Les critères principalement, donc il y a un critère relativement simple pour nous, très simple à obtenir, c'était un plafonnement des salaires, notamment pour l'encadrement de l'entreprise. Donc pour nous, on en est loin, c'est des plafonds qui sont assez élevés, donc ça c'était pas un problème. Derrière, donc il y a un autre critère, c'est de justifier du côté de l'utilité sociale de notre activité. Il fallait que les deux tiers de notre des ressources que l'on crée soient utilisées à cet escient. Donc clairement, vu que on s'adresse principalement, je dirais, à 80-90% de notre activité, c'est pour des personnes qui sont fragilisées, des personnes âgées ou des personnes handicapées, on rentrait, je dirais, naturellement dans cette utilité sociale de par nos prestations. Donc c'était relativement la démarche, en tout cas, est simple à mettre en place avec la directe, avec l'inspection du travail. Un petit dossier relativement simple à monter, et derrière, c'est quelque chose qui va très vite. L'arrêté préfectoral qui entérine, je dirais, l'appartenance à l'économie sociale et solidaire est arrivé assez rapidement. Donc, pour s'inscrire dans cette démarche, c'est relativement simple une fois que, je dirais, que l'activité est tournée vers l'humain. Ça se fait tout naturellement.
Et ça, est-ce que ça vous donne envie aujourd'hui, du coup, ça vous, je ne sais pas si ça vous a fait un peu découvrir aussi ce qu'était l'économie sociale et solidaire, ou du coup, si aujourd'hui vous en avez une vision un peu plus large, ou est-ce que, mais ça vous donne envie de travailler un peu avec ces acteurs-là, avec
Tout à fait. D'ailleurs, Coviva, le réseau national est un réseau mutualiste, c'est-à-dire que tout le monde est indépendant sur notre territoire. Chaque entreprise est indépendante. Par contre, on adhère tous ensemble à un regroupement mutualiste qui est la Maison des services à la personne, qui permet de mutualiser certaines fonctions qui sont importante dans notre activité, notamment de la veille sociale et juridique, et ce qui permet vraiment de mettre en commun toutes les bonnes volontés et de faire avancer les choses rapidement et durablement surtout.
Et bon, je vais finir par une question peut-être un peu plus personnelle, mais vous êtes jeune, Laurent, enfin tu es jeune, et tu te retrouves à la tête de cette structure. Comment on en arrive là, et c'est un choix, c'est quoi ?
Je dirais que c'était avant tout, donc moi j'ai repris la société il y a quelques années, et ce qui a entériné mon choix, c'était la vision partagée que j'avais avec l'ancienne gérante, Madame Armand, qui a créé cette société, de l'encadrement et du management au sens large. Je dirais que, voilà, on partage ces valeurs communes de mettre l'humain avant tout, le salarié au centre de tout, parce que c'est derrière ce qui fera le développement de l'entreprise. C'est, je dirais, plus la façon de gérer l'entreprise qui m'a attiré avant le secteur d'activité. Et le secteur d'activité a vraiment, de par cette utilité sociale, on se rend compte qu'on, qu'on aide vraiment les gens dans des situations qui ne sont pas toujours évidentes à gérer. Ça a vraiment renforcé cet attrait, et ce qui fait qu'au quotidien, c'est quand même c'est hyper agréable à gérer.
Alors Benjamin, je te vois sourire. Est-ce que du coup, tu as envie de poser une question à Laurent, ou alors peut-être envie de faire un commentaire, puisque c'est... Okay.
Non,
c'est...
Je fais la connaissance de Laurent aujourd'hui. Je trouve que c'est une belle personne, et puis je lui souhaite bien la bienvenue dans la grande famille de l'économie sociale et solidaire. Et je pense qu'effectivement, l'avenir, c'est d'arriver à fonctionner entre les structures de l'ESS, se connaître, et derrière arriver à monter des projets qui seraient des projets de filière, mais pas forcément des projets inter-entreprises qui partagent une philosophie commune. Voilà.
Alors justement, pour aborder cette question de coopération future, Benjamin, est-ce que tu peux nous en dire plus sur énergie renouvelable du Gapençais?
Oui, donc énergie renouvelable du Gapençais, ERDG, c'est une SCIC, une société coopérative d'intérêt collectif. Le projet, il est né il y a une petite année. La société a été créée en début d'année 2016. Et puis l'objectif donc de ERDG, c'est produire de l'électricité renouvelable locale. Hein. C'est-à-dire aujourd'hui, on a des sociétaires, une quarantaine, qui sont majoritairement aujourd'hui des particuliers, mais également quelques communes, des associations, des entreprises, des collectivités. Et on récupère comme ça un capital. Avec ce capital, ben, on va financer des productions locales d'électricité, c'est-à-dire des installations solaires photovoltaïques. Hein, ça, c'est des systèmes très, très classiques. Également, on a des projets sur du petit éolien et du petit hydraulique. Et notre spécificité, c'est qu'on mène aujourd'hui des études sur également des projets de méthanisation. Donc l'objectif, c'est de développer des projets participatifs et surtout respectueux de l'environnement. L'objectif aussi, c'est se réapproprier l'énergie et garder la maîtrise de nos ressources naturelles et garantir des retombées économiques locales, c'est-à-dire l'énergie et ses revenus profitent au territoire et profitent aux citoyens.
Alors j'en profite pour dire que l'UDES, depuis plusieurs années, travaille sur ces questions avec d'autres structures antérieures, que sont notamment Énergie, et puis maintenant Énergie Collective à Embrun, et que ces structures, bon, qui sont pas tout à fait les mêmes, mais ont des buts quand même similaires. Énergie dans le Kera, qui installe notamment des panneaux photovoltaïques sur les toits, et puis Énergie Collective qui s'est montée en SIC cette année, et qui sera d'ailleurs un des témoins du forum qu'on organise le 4 novembre à Chorges. Donc c'est vrai que c'est une problématique, nous, qui nous semble intéressante, et surtout on a l'impression qu'en ce moment c'est en train de prendre une certaine ampleur, peut-être d'ailleurs davantage au niveau des citoyens que du niveau des collectivités, mais je sais pas si c'est juste une impression ou...
Alors effectivement, tu fais bien de dire que aujourd'hui on est un des départements les mieux maillés en termes de structures coopératives collectives de production d'énergie renouvelable. Tu as cité Energil pour le Kera, tu as cité Énergie Collective pour l'Embrunet, et nous, notre territoire d'intervention, c'est effectivement le Gapençais, c'est le pays Gapençais, hein, le territoire du pays Gapençais, donc un territoire assez vaste. Je pense que effectivement, il y a sur ce département une mobilisation citoyenne et une envie citoyenne de se réapproprier l'électricité, de la produire localement. Mais on commence effectivement en expliquant les choses tranquillement, paisiblement, à pouvoir associer à ce projet, comme je te le disais, des associations, des entreprises, bienvenue Laurent, des collectivités, enfin je veux dire tous les acteurs territoriaux, les syndicats d'électrification, etc., etc. Je pense qu'on est sur une vraie vague de fond. Bon, après on réinvente rien. Au début du siècle précédent, il y avait des centaines de régies, l'électricité était locale, il y a eu des choix politiques qui ont été autres, et aujourd'hui finalement la boucle se referme, hein. On est
T'as raison de dire qu'on réinvente rien, mais quelque part c'est vrai que aujourd'hui ça paraît je pense pour beaucoup de citoyens dont je fais partie, quelque chose d'inaccessible, la question de la production de l'énergie. parce qu'on nous a habitués à des grosses structures publiques, enfin, maintenant qui sont moins publiques, mais qui gèrent ces questions-là. Et c'est vrai que de se dire que tout d'un coup, c'est possible de revenir à une production localisée, ça paraît, oui, au début, assez étonnant. Alors qu'en fait, effectivement, historiquement, c'est quelque chose de...
Voilà. Au-delà de c'est possible, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va en parler, il y a un gros besoin de former, d'informer, de vulgariser, d'expliquer l'énergie. Alors moins sur le photovoltaïque, où ça rentre effectivement un peu dans les mœurs, mais beaucoup plus sur les autres énergies. Et non seulement c'est possible, mais c'est vital. C'est, je veux dire, sur le département, il y a eu, et on est en tête, je pense, on est parmi les départements en tête, un gros développement de sur le bio, sur la nourriture. La suite, c'est l'énergie, l'étape d'après, ce sera les transports.
Et j'en profite pour redire que le forum qui est lieu le vendredi 4 novembre à Chorges a pour thématique transition et justement va aborder toutes ces questions. Juste parce qu'il faudrait pas qu'on passe à côté, parle-nous du projet Micrometa Hautes-Alpes.
Alors, au-delà de Micrometa, on a un projet de méthanisation assez ambitieux qui permettra, quand il verra le jour, j'espère, dans moins d'une année, de produire de l'électricité pour 700 foyers, je répète bien 700 foyers, à partir d'intrants, c'est-à-dire essentiellement d'intrants de bovins, enfin, c'est-à-dire de fumier bovin. Donc la méthanisation, en deux mots, pour les auditeurs, c'est on récupère des déchets organiques, avec ça on produit un biogaz, enfin un gaz qui est du méthane. Ce méthane, on peut soit le réinjecter directement dans un réseau gaz, soit produire de l'électricité par cogénération. La réaction produit également de la chaleur qu'on peut utiliser pour chauffer des bâtiments, des maisons, etc., etc. Et à la fin, il sort un digestat fertile qu'on peut épandre pour fertiliser les terres. Donc c'est quelque chose de magique. Pour faire connaître et faire comprendre la méthanisation au plus grand nombre, c'est-à-dire à la fois aux plus jeunes, puisqu'il y a une nécessité d'informer les jeunes générations, mais également leurs parents, leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents, et également les décideurs. Eh ben, on a lancé la campagne a été lancée il y a une semaine, une campagne sur Ulule de financement participatif d'un micro-méthaniseur. Donc là, le but, c'est de faire de la pédagogie. On va récupérer les fruits et légumes pourris invendus de chez Biocoop, des trois magasins Biocoop de Gap.
La Biocoop Le Grenier.
Voilà, la Biocoop le Grenier. Et puis avec ça, et bien effectivement, on va faire fonctionner, enfin on va produire donc du gaz, CH4, du méthane. Et avec ça, pour être démonstratif, on va alimenter un petit distillateur d'huile essentielle. Donc le micro-distillateur produit en gros 2-3 heures de gaz par jour et derrière il alimente un micro distillateur d'huile essentielle pure. Donc voilà, la boucle est bouclée, on est dans l'économie totalement circulaire et local avec nos déchets on fait dans ce cas-là du gaz et un digestat fertile.
Du coup là il y a quand même un appel aux dons, et enfin en tout cas pas c'est pas vraiment des dons d'ailleurs, mais en tout cas un appel à financement.
Non, oui. Donc c'est pas des dons, c'est des contreparties. C'est-à-dire vous avez vous donnez suivant ce que vous pouvez, enfin c'est surtout le geste qui compte à partir de 5 euros et en fonction de vos dons effectivement il y a des contreparties, et il y aura surtout à la fin de cette campagne, d'ici 3 semaines, 1 mois, une grande soirée finale où là on fera fonctionner effectivement le micro méthaniseur, et puis on fera les premières démonstrations de cette technologie absolument pure.
D'accord, bah du coup je vous invite tous à aller voir sur le site de l'UDES et puis sur le site de RDG, puisqu'il y a toutes les informations nécessaires justement pour participer à ce crowdfunding. Messieurs, l'émission arrive à sa fin, c'est court, mais voilà, je vous invite à revenir, et puis je vous remercie tous les deux de votre participation. J'espère que on aura des coopérations qui vont naître de cette rencontre.
Merci à vous.
Et puis bon courage dans vos projets.
Merci.
Merci.